Bon, allez, Bezrat Hashem. Alors, premièrement, bonsoir. Oui. Alors, le cours, il est dédié pour le Refouach Shlema de
Kolet Nina. Ben Turquia. Bat Turquia.
Turquia. J'ai rien dit. Donc, Bezrat Hashem. Ok, Refouach Shlema. Avec l'aide de Dieu. La Refouach pour tous nos malades. La Hatzlacha pour tout à chacun. Les Elou Nishma de tous nos défunts. Bezrat Hashem, en particulier pour les deux petites, Shira et Sarah, notre Keren. Bezrat Hashem, Shira et Sarah, notre Keren. Voilà. Avec l'aide de Dieu. Donc, on voit, hein, soit on fait un cours un peu particulier, on a Natania, vous savez où est-ce qu'on est, mais ils nous regardent en direct sur Internet. Donc on leur dit à chaque fois. Voilà, Bezrat Hashem, c'est pour leur montrer que je suis un garçon poli. Là, on m'invite, je viens. Donc n'hésitez pas à m'inviter pour venir donner des cours. Bezrat Hashem. Donc on voit, hein, on va faire un cours un peu particulier. Comment c'est conseils et astuces pour une bonne parnassa. Hein? C'est intéressant. Voilà. Donc Baruch Hashem, il y a trois grands tubes dans les cours de Torah. Hein. Je vous explique. Hein. Quand un rabbin il débarque quelque part et qu'il a besoin de se faire connaître, il va vous faire un cours soit sur la Inara, d'accord, soit sur l'interprétation des rêves, soit sur la Parnassa. Les trois, ça marche. C'est les trois grands tubes. D'accord? Voilà, c'est le tiercé gagnant, entre guillemets, dans les cours de Torah. On est sûr que les gens, ça va les intéresser. Bezrat Hashem. Mais c'est des sujets qui sont importants d'aborder, quoi qu'il arrive. Et c'est important de les connaître. On se rend compte de la grandeur de la Torah à travers tous ces enseignements, et en particulier sur les enseignements qui concernent ces sujets-là. Donc nous, on va voir ce soir, d'accord, un cours sur la Parnassa. Alors bien sûr, l'argent, ça occupe une place centrale dans notre existence, importante, d'accord, c'est le nerf de la guerre, c'est parfois, je m'occupe beaucoup de Shlom Bayit, donc je collabore avec les tribunaux en Israël, on m'envoie beaucoup de couples pour des expertises, pour des médiations, pour des thérapies de couple, on dirait pas comme ça, Baruch Hashem, et tout simplement, on voit que très souvent l'argent c'est un sujet qui appelle de nombreux différents. Entre deux amis, des associés, des collaborateurs, un mari et sa femme, les parents, les enfants, ouais. Et après les enfants, les parents, parce que quand ils sont petits, c'est les parents et les enfants. Mais après, quand les parents sont vieux, des fois, c'est les enfants et les parents. Il y a un proverbe judéo-arabe qui dit qu'un parent, il peut nourrir 10 enfants. Mais 10 enfants, ils peuvent avoir du mal à nourrir un seul parent. C'est intéressant. Donc, on voit, Baruch Hashem, que l'argent, en hébreu, on appelle ça mammon. D'accord? Mammon, mimoun, maimon, ça veut dire enseigner, ça veut dire utiliser. C'est pas un lachon d'argent, en réalité. Ça veut dire que l'argent qu'on a sert à agir. Et on va voir par cela qu'il y a deux dimensions dans l'argent. Il y a une dimension matérielle, celle à laquelle tout le monde a une relation. Mais il y a aussi une dimension qui est extrêmement importante dans l'argent, il y a une dimension spirituelle. Ce qui veut dire pourquoi je gagne de l'argent, à quoi me sert cet argent, pourquoi Dieu a créé un monde avec ce besoin d'échange. Quand on regarde l'histoire des échanges commerciaux, que ce soit à l'époque du troc ou avant même le troc, il y avait toujours besoin d'échanger, donnant. D'accord? Avec le temps, on a créé des monnaies. Des devises par pays, il y a des devises qui ont disparu, des devises qui reviennent. Aujourd'hui, il y a des devises électroniques, ça va dans tous les sens. Il y a eu le bitcoin à un moment donné, après le bitcoin il a baissé, aujourd'hui le bitcoin il remonte, on ne sait plus où est-ce qu'on va. Hein? C'est vrai ou pas? Il y a des pays dans le monde où à ce qui paraît on pourrait acheter des biens en bitcoin. C'est extraordinaire. Donc on voit aujourd'hui que les monnaies, l'argent c'est une folie. Et c'est très subjectif en réalité. Parce que quand on y réfléchit bien, après tout, c'est que quand on a de l'argent matériel, aujourd'hui, les pièces, elles sont même plus en argent. Elles sont en métal. Ouais. Et les billets, c'est du papier. Oui, c'est quoi? Donc quelle valeur ça a? C'est un besoin d'échange. Mais il y a une dimension matérielle, la valeur qu'on accorde à une monnaie. Mais il y a aussi surtout une dimension spirituelle. La valeur que moi, je donne à cet argent dans mon foyer. Il faut que j'ai une approche en tant qu'être humain plus spirituelle que matériel par rapport à l'argent. C'est profond et c'est pas profond ce que je viens de dire. Ça a l'air idiot, mais c'est, à ce qui paraît, c'est intelligent. On va voir pourquoi. Bezrat Hashem. On voit que l'argent, ça va avoir une influence sur notre psychisme, sur notre santé, sur notre spiritualité, sur notre intellect. On voit très souvent que des gens qui ont plus d'argent, bah des fois, ils vont être plus facilement épanouis dans leur vie. Et parfois, c'est l'argent qui va leur empoisonner leur vie. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle, en réalité, par rapport à l'argent. On a ceux qui sont riches et l'argent, ça leur fournit beaucoup de soucis. Il y a ceux qui sont riches et qui sont très heureux avec de l'argent. Il y a ceux qui sont pauvres et parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est un souci. Il y en a d'autres qui sont pauvres et heureusement pour eux, parce que comme ça, au moins, ils sont heureux. Ça peut paraître fou. Donc, c'est relatif à chacun. Raison pour laquelle on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère la parnassa de chacun. Il gère la parnassa de chaque être humain dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce dont chacun a réellement besoin. Maintenant, si toi, tu commences à vouloir désirer des choses dont Dieu n'estime pas que tu as un véritable besoin, c'est là que tu vas te commencer à te rentrer dans tes problèmes. Parce qu'avant de penser à tes besoins matériels, Dieu y pense à tes besoins spirituels, à ta mission dans ce monde. Vous arrivez à comprendre ? C'est pour ça qu'on a très souvent des gens qui rament et qui disent « Je comprends pas, j'ai pas de bracha dans la parnassa. » C'est de comprendre. Je connais des hommes qui ont fait fortune. Ils ont commencé leur carrière en tant qu'éboueur. J'en connais un, il a fait éboueur dans Yehuda Veshomron, en Israël. Après, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'usine de recyclage en Judée-Samarie pour recycler les ordures. Il a commencé à faire là-bas des usines de recyclage pour recycler les ordures et à proposer à tous les villages de Judée-Samarie de recycler leurs ordures. Avant, les camions poubelles devaient venir jusqu'en Judée-Samarie et revenir dans les régions de Jérusalem ou de la région de Gouch Dan pour faire recycler les ordures. Et c'était compliqué pour les usines de recyclage d'arriver à tout recycler. Lui, il a trouvé le truc. Il a fait une usine de recyclage là-bas. Devenu multimilliardaire. Oh, de quoi il est devenu multimilliardaire? De la poubelle que nous, on jette. Et en recyclant, il fait de l'argent. C'est une folie. On arrive à comprendre ça? Et on connaît des gens qui ont des diplômes, qui sont surdiplômés. Ils ont passé des diplômes et des doctorats, et Dieu bénisse, ils n'en sortent pas au niveau de leur parnassa. D'ailleurs, on est étonné des fois. Des fois, on entend parler de personnes qui ont des besoins, qu'on a envie d'aider dans la communauté ici et là. Et on se dit, mais on ne comprend pas, il a des diplômes, il travaille. On se disait qu'il travaillait bien. Non ? Et ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire que notre rapport à l'argent, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire ce rapport mensonger qui est de dire, on met nos enfants sur deux rails. Pour qu'ils aient une carrière, pour qu'ils aient des diplômes. Et comme ça, ils vont gagner leur vie. C'est une règle et ce n'est pas une règle en soi. C'est vrai et c'est faux. On le sait. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que ça a aussi une influence sur notre shalom bayit, le calme et la paisibilité d'une personne. D'accord? Une personne qui ne va pas être épanouie dans sa parnassa. C'est une personne qui va avoir du mal, non seulement à gagner sa vie, parce que comme elle n'est pas épanouie, comme elle n'est pas sûre d'avoir la bracha dans ce qu'elle est en train de faire, et qu'elle n'est pas sûre d'avoir son salaire à la fin, elle se met une telle pression qu'elle n'arrive même plus à être productive dans son travail. Vous le voyez dans vos bureaux avec vos collègues, ou si vous êtes employeur, si vous avez des employés, ou si vous êtes des employés, vous voyez que votre employeur, dès qu'il y a un coup de pression à un niveau ou à un autre, et on ne sait pas comment joindre les deux bouts, les gens ne deviennent plus productifs, ils n'arrivent plus à rien faire. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on voit donc que ce problème, après, il va avoir influencé toutes les dimensions de l'existence d'une personne. J'ai parfois des femmes qui viennent me voir, qui me disent « Mon mari, il est radin. » Ou l'inverse. Ça existe. Si, ça existe. Alors, attendez. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je dis des choses, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement? On voit Baruch HaShem. C'est quoi, en réalité? Le mari, il n'est pas forcément radin. Le mari, il a une angoisse de boucler la fin du mois. Des fois, on a quoi? On a une bonne situation et on s'habitue à un certain train de vie. Et on a une femme et on a des enfants. Et ils se sont habitués à ce train de vie. Et puis, à un moment donné, les rentrées d'argent, ça m'énuise. Mais la femme et les enfants, Bah, et surtout les enfants, souvent, ils ont du mal à s'habituer au fait que on leur dit du jour au lendemain, il n'y a plus trop les moyens. Ça devient un problème. Et ça crée des tensions, parce qu'après, les enfants réagissent mal. Du fait qu'ils réagissent mal, la mère n'est pas bien de voir ses enfants, ils lui mettent la pression. Comme ils lui mettent la pression, la femme n'a pas de problème avec son mari, réellement, elle n'a pas de problème de couple. Mais à cause de la pression que mettent les enfants parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, oui, parce que le gosse qui avait l'habitude qu'on lui change son vélo chaque année et qui veut le super vélo à 15 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 40 000 shekels, et ça existe, des vélos à 30 000 et 40 000 shekels, ça existe. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est une folie. Donc, je peux. Hein? Non, mais ça existe. C'est-à-dire, il y a des enfants qui ont l'habitude chaque année à ce qu'on leur change leur vélo. Des vélos à 8 000, 10 000 shekels, ils veulent le vélo enduro, ou le Donil, ou le Babachidi, là. Hein, les nouveaux vélos tout-terrain. Hein. Maintenant, ils font les vélos tout-terrain électriques. Tu pédales même plus, tu vas tout-terrain électriquement. Ce qu'on essaye de voir, Baruch HaShem, tout simplement, c'est que on est arrivé dans une génération où, malheureusement, parfois, l'argent, ça devient un véritable problème. Un véritable problème. Les enfants, ils s'habituent, ils veulent l'argent, il n'y a pas l'argent. Le père, il explique qu'il y a un problème grave financier. Les enfants ne comprennent pas, la femme, elle ne comprend pas. Et d'un seul coup, le mot magique sort, radin. C'est parce qu'elle a la rada, elle l'appelle radin. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. Oui ? On fait comment ? On fait comment ? Alors, c'est quoi le secret ? C'est de gagner beaucoup d'argent ? C'est quoi le secret ? C'est de travailler 15-20 heures par jour ? Comme ça, le soir du Seder de Pessah, quand on va chanter « Avadi ma'inu lefaro be'mitzraim » Oui ? On dit qu'à chaque génération, un homme il doit se voir lui-même comme s'il était esclave en Égypte. Mais l'esclavage d'aujourd'hui, c'est le monde matériel. Le monde matériel, si tu deviens esclave du matériel, esclave de tes factures, esclave de ton rythme de vie, tu arrêtes de vivre. Tu vas faire des 15 et 16 heures au bureau en espérant gagner ta vie. Et pourquoi tu vas faire tes 15 heures au bureau ? Parce que tu n'as pas envie d'avoir la pression à la maison avec ta femme et tes enfants. Baruch HaShem. On voit quoi ? Moi, je dis Baruch HaShem, j'ai cru qu'il y en a un qui arrive. Je suis très content. Alors, bonsoir. Alors, on voit à Baruch HaShem. Que Chazal, ils nous ont donné différents conseils pour avoir une bonne parnassa. D'accord ? Et la première chose pour une bonne parnassa, ce n'est pas les chiffres. Ça n'a rien d'économique, de mathématique. C'est est-ce que tu as la bracha ou pas avec l'argent que tu as entre tes mains. Ça, c'est un truc que je passe mon temps à le dire. J'ai des gens qui viennent me voir, parce que je fais beaucoup de médiation, pour parfois, ils cherchent une solution à la mienne pour régler des différends d'argent. Vous voyez ? Un architecte avec un client, ou un kablan avec un autre client, des fois ils s'embrouillent, ou des fois des entreprises entre elles et des associés, cherchent des solutions à l'amiable. Et parfois on voit que, sur le papier, on parle de très grosses sommes d'argent. Et en réalité, dans certains différends, on parle de très grosses sommes d'argent, mais on voit qu'il y a de l'argent qui est rentré, mais il y a encore plus d'argent qui est sorti. Venons, on va exagérer comme bon Tunisien que je suis.
Oui. Ah, j'ai rien au gars, c'est bien sûr dans le livre.
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Baruch HaShem tout simplement que le rapport qu'on a, nous, à cet argent, il est faux. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple, on va exagérer, comme j'étais en train de dire, comme bon Tunisien. Un monsieur, il a $1 million qui rentre par mois. Il est refait. Mais non, $1 million, les enfants. Ouais ? Maintenant, le pauvre, il est passé après Hollande et Macron. C'est-à-dire, on lui dit, monsieur, ton palier, 75% d'impôt déjà. Ouais ? Ça, c'est un. Oui ? Et après, on lui dit, attends, après, avant les impôts, tu as les impôts à payer. Mais il y a les rentrées, il y a les sorties. Il rentre $1 million, mais il a $2 million de sorties par mois. Il a les frais, il a les taxes, il a les employés à payer, il a le bureau à payer, il a l'électricité. Maintenant, les gens dans le bureau, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le beau bureau, ils voient le nombre d'employés, ils voient la voiture de fonction, entre guillemets. que c'est la voiture, elle est au nom de la société. Il a pris à une époque où il y avait des rentrées d'argent. On ne voit pas dans quoi un homme, il peut parfois s'enliser. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se fier aux apparences. C'est pour ça qu'il y a une histoire extraordinaire avec Hillel Azaken, avec un homme qui était connu pour être très riche dans la Gemara. On parle. Un homme très riche dans la Gemara. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Hillel, il est venu, il a demandé la tzedaka pour lui payer un cheval, pour lui payer une belle tenue. Et il a couru, lui, le grand de la génération, c'était le Nassi de la génération. C'était le grand de la génération. Il n'y a pas plus grand que le Nassi de la génération. D'accord ? C'était le Nassi de la génération. Il a couru devant le cheval pour annoncer que c'était cet homme-là. Ils ont dit, Mikvodara, on a des pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Pourquoi ce pauvre-là, tu viens, tu lui payes un beau cheval, une belle tenue, un beau repas, et tu demandes à Tzedaka pour lui payer une belle maison? Parce que là, l'Halakha, elle te dit que le rôle de la Tzedaka, ce n'est pas uniquement de venir en aide aux pauvres. C'est de faire en sorte de réinsérer ton prochain dans la société. Et de faire en sorte que ton prochain ne sombre pas dans la dépression et la déchéance. Donc il a dit, ce riche qui est devenu pauvre, on doit le maintenir à un certain niveau pour lui permettre de se sentir mieux et qu'il reprenne du poil de la bête pour qu'il se remette à travailler et qu'il regagne sa vie. Parce que si on fait d'un homme riche un pauvre qui va demander, d'accord, à la soupe populaire un petit micheton de pain et un petit bol de soupe, à la finale il va tellement être mal qu'il ne va jamais reprendre le dessus. Non ? Ouais ? C'est logique ce que je suis en train de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité que le plus important dans la parnassa, dans l'argent, c'est d'avoir la bracha. Je peux vous dire, quand on a la bracha dans l'argent, Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, ça peut rendre fou. Moi, j'ai eu une discussion la semaine dernière, j'aime bien raconter ma vie. Moi, je raconte ma vie parce qu'il n'y a pas mieux. On dit que l'Agmara nous dit qu'il n'y a pas mieux comme expérience que le Baal Nisayon, d'apprendre de ceux qui ont eu l'expérience de la vie, entre guillemets. De voir l'exemple réel de la vie. Au lieu de parler de Mishnah et de Gemara, de Shulchan Aruch, des fois, la Chochmat Raïm, la véritable sagesse de la vie, c'est de parler des cas réels dans notre société. Il y a des gens qui ont des associations qui viennent en aide à différentes personnes. Et j'ai des gens qui m'ont appelé qui étaient choqués. Ils m'ont dit, on ne comprend pas. On a affaire parfois à des gens dans des milieux religieux où les parents ont pris des dettes sur eux pour permettre à leurs enfants de s'asseoir et d'étudier au collège. C'est choquant. Oui. Il y a des gens qui me disent qu'ils trouvent ça choquant. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'au moment du mariage, les parents prennent des arrangements pour permettre aux enfants de grandir sur un certain chemin et de permettre très souvent au mari, quand il va étudier, d'avoir un poste et des diplômes de Rav, comme le Rav Sadoun aujourd'hui, il a un diplôme de Rav al-Rabbanout, il a un poste ici, au Hachem, vous comprenez ou pas ? Et de gagner sa vie comme ça. Je t'abarre chez Molad. C'est ça le but de l'histoire, normalement. Normalement. Il y a des gens qui sont choqués. Je leur dis, attendez, venez, on refait les choses autrement. Un enfant, quand il vient au monde, il demande à venir au monde ? Non, les parents l'ont mis au monde. Donc on estime que c'est aux parents, lorsque les enfants se marient, d'aider leurs enfants à pouvoir se marier et à se construire. Parce que si on veut d'un côté que les enfants se marient jeunes pour éviter les différents problèmes et les tentations de la vie, quand on attend trop longtemps pour se marier. Oui ? Non ? Je dis ça comme ça. Non, vous êtes au courant ou pas ? Il y a des tentations avant le mariage. Je sais qu'on a affaire qu'à des tzadikim ici, mais bon. D'accord ? Moi, j'ai grandi à Sarcelles. Qu'est-ce que j'ai été tenté ? Alors maintenant, bon, Hachem, qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est quoi ? Bon, alors on les marie jeunes d'un côté. Alors, donc on les marie jeunes d'un côté, mais de l'autre côté, on leur vient en aide. Les gens sont choqués. Attends, les parents, ils viennent, ils aident. Qu'est-ce que ça crée comme phénomène ? Comme les parents, ils viennent, ils s'endettent, ils sont en train d'aider. Bah, au Hachem. Ils prennent des prêts à droite, à gauche, etc. Ça crée un truc simple. Ça crée que dans les milieux religieux, 70% des jeunes couples sont propriétaires d'un petit bien immobilier en Israël. Alors que dans les milieux non religieux, on n'a que 30% des couples. C'est exactement l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Ce qui veut dire qu'en réalité, quand on parle de taux de pauvreté, quand on vous parle de pauvres, on parle de pauvres peut-être, mais qui sont tous propriétaires immobiliers, pour la majeure partie d'entre eux. Comprenez ou pas ? Maintenant, ça fait quoi ? Ça fait qu'avec Baruch Hashem, bonjour, avec ce système-là, en réalité, ça crée une sorte de bracha pour ces jeunes au niveau de leur parnassa. Pas uniquement parce qu'ils sont dans le Derech HaTorah, parce que la Torah, elle te dit comment t'occuper des jeunes mariés quand on les marie. C'est extraordinaire. On n'aurait pas tous aimé, au moment où on se marie, d'avoir des parents qui nous disent, écoutez, vous mariez, on ne va pas délirer les enfants, on ne va pas louer le pavillon Dauphine. Hein, on la connaît, la soirée au pavillon Dauphine. Oui. On va pas louer le pavillon Dauphine alors qu'on habite dans le 93 ou à Garges-lès-Gonesse, les enfants. On va pas louer la Rolls-Royce pour aller au Tournel le dimanche alors qu'on habite tous dans, à Garges. Ouais. On se prend la tête à klaxonner sur le périph. Oui ou non? Ok, on est content. On est content. On a tous perdu à acheter les costumes chez Kenzo à 2000 euros. Si c'est pas 10 000 euros pour faire la classe, entre guillemets. Et si les parents, ils s'étaient dit, non, attendez, on arrête le délire là. Et avant de faire ça, d'abord, on met de l'argent de côté pour permettre à ce jeune couple de s'acheter un petit bien. Et avec ce petit bien, ils vont pouvoir avancer dans la vie. Non? C'est pas mieux? Donc on voit en réalité que pour avoir la bracha dans la parnassa, il y a une gestion logique qu'il faut avoir. La bracha, ça vient, la racine de bracha, c'est quoi? C'est Barer Hashem. D'accord? Bracha. Le He, c'est Akadosh Baruch Hu. Barer Hashem. Le He, ça représente aussi la sphère de la malchoute. Si on a le temps, on en parlera un petit peu à la fin. Kabbalah, chassidut et tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? On voit tout simplement que le barer, c'est la racine de bracha. Barer Hashem. Le He, c'est la malchoute. On voit que barer, la gematria, Baruch Hashem, d'accord, c'est tout simplement 222. Ok, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le bet, la lettre qu'il y a avant, c'est 1. Oui, d'accord ou pas? Le resh, la lettre qui est avant, c'est le kouf. La gematria, c'est 100. D'accord? Et le raf, la lettre qui est avant, c'est le yud. Gematria, c'est 10. Ce qui veut dire que on a 222, c'est barer, les gematria, mais toutes les lettres qui sont avant, on obtient la gematria 111. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Quand t'as la bracha, tu regardes chaque lettre qui est avant le mot barer, même si t'as un petit peu, avec ton peu, tu peux faire beaucoup. Avec 111, tu peux faire autant qu'avec 222. Tu veux ou pas? Ce qui veut dire qu'avec tes 100, tu peux faire autant qu'un mec qui a 200. Moi, je veux raconter une anecdote à Sarcelles. Histoire vraie. J'adore la raconter, cette histoire. Maintenant, ça fait 20 ans que je la raconte. Donc maintenant, j'ai l'impression d'être vieux quand je la raconte. Mais bon, il y avait un couple, le mari dentiste, la femme avocate. Ils habitent à Sarcelles. D'accord? Avenue du 8 mai. On va pas donner trop d'adresses parce qu'après, il y en a d'ici, ils vont griller qui c'est. Dans leur immeuble, il y a un rabbin enseignant au Tzara Torah. Il donne un peu des cours le matin à la synagogue, il donne d'autres cours dans un Talmud Torah ici, et là, etc. Il donne que des cours de Torah. D'accord? Sa femme aussi, elle donne un peu de cours aux jeunes filles, etc. Ok? Maintenant, le dentiste et l'avocate, ils ont 3 enfants. Et ils n'ont pas la bracha dans la parnassa, ils viennent voir le Rav Brandt à Sarcelles pour demander au Rav Brandt une bracha. Et le Rav Brandt, il leur dit, où est-ce que tu habites? Il sait très bien où est-ce qu'ils habitent. Il dit, dans ton immeuble, il y a celui-là, tu vois l'autre là, dans Beth Midrash, en train d'étudier. Celui-là, il habite dans ton immeuble. Tu veux une bracha, la bracha pour ta parnassa, va lui parler. Ils se rendent compte de quoi? Que les deux habitent dans le même immeuble, qu'ils ont acheté le même type d'appartement au même prix, oui, qu'ils ont la même voiture, même modèle. Mais il y en a, il a 10 enfants, l'autre il a 3 enfants. Et il se rend compte que le Rav, avec la rabbanite, gagne le tiers de ce qu'il gagne lui avec sa femme. Et lui, il dit qu'il ne s'en sort pas au niveau de sa parnassa. Comment c'est possible? Hein? Ah oui. On peut dire le rythme de vie. Ils ont... Je sais pas. Viens, on y va. Viens. Attends. Attends, Sarcelles. Attends, Sarcelles avenue du Humé, hein. Attends, c'est Beverly Hills, hein, Sarcelles avenue du Humé, hein. Y a attends. Attends, je peux continuer ou pas? Attends, est-ce que je peux? Attends, mais c'est le Beverly Hills de Sarcelles, l'avenue du Humé, c'est l'avenue du. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bon, au crachet, maintenant, c'est l'avenue du tramway. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'avec la bracha dans la parnassa, tu peux faire très peu avec. Tu peux faire beaucoup avec très peu. C'est une question de bracha dans ta maison. Et essaye de comprendre. Tu peux tout simplement, viens, on voit. Il y en a un, il comprend rien. Il y a un monsieur, la mairie, elle envoie, c'est une histoire vraie, hein. La mairie envoie comment on appelle un mérasès en français? Un monsieur qui s'occupe d'insecticides, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Un dératiseur, ou je ne sais pas comment. Bon, bref. Il arrive et il se plaigne là-bas qu'il y avait beaucoup trop de cafards. D'accord? Devant une maison. Donc il fait quoi le type? Il enlève la bouche d'égout, et dans la bouche d'égout, super intelligent le type, il met le produit anti-cafard. Qu'est-ce qui se passe? Tous les cafards dans les égouts, dans la ville de Bnei Brak, montent dans l'immeuble. La mairie, elle est désolée, elle doit faire désinfecter l'immeuble. Maintenant, l'immeuble, il a une assurance. Chaque appartement reçoit, de la part de l'assurance, 50 000 shekels. Ils ont rien compris. Ils ont 50 000 shekels qui tombent du ciel parce qu'il y a une centaine de cafards qui sont rentrés dans l'immeuble. Bon, c'est vrai que c'est une centaine de cafards. Mais comme ils sont sortis, ils ont fait sortir. Comme ils sont rentrés, ils ont fait sortir. 50 000 shekels qui tombent du ciel. Maintenant, toi, tu es dans ta maison, tu comprends pas. Tu as une fuite d'eau, tu crois que c'est une petite fuite d'eau. Le mec, il vient à l'installateur, d'accord? Il t'explique que c'est pas une fuite d'eau, il faut refaire toute la canalisation de la maison. Ouais? Donc, tout dépend de la bracha dans la parnassa. En plus, la Kabbalah nous enseigne que quand c'est de la fuite d'eau et des problèmes d'eau dans la maison, c'est une mauvaise gestion, non? C'est une mauvaise gestion de ta parnassa. C'est que ton argent, tu le gères mal. Tu ne le mets pas là où il faut. Ouais.
C'est la
prochaine,
c'est
la dernière. Non. Non, non. Non, non, c'est pas. Non. Fuite d'eau, c'est pas bon dans la maison.
J'ai
pas toujours dit ça. Bien, baba, parce que l'eau, c'est la vie, c'est la bracha, et c'est. Pas quand ça t'explose dans la tuyauterie dans la maison. D'accord? Donc c'est vrai que c'est la vie, c'est la bracha, c'est tout ce que tu veux, Baruch HaShem. Mais bon. On va continuer avec l'aide de Dieu. Bezrat Hashem. On voit tout simplement comment on fait maintenant. Maintenant, comment on fait? Quand on n'a pas assez de rentrée d'argent. Il n'y a pas. De toute façon, moi j'ai appris un truc quand j'ai fait mon allié en Israël, c'est qu'il n'y a jamais assez d'argent. Ça, faut t'habituer à ce truc-là. Hein. Tu n'as jamais assez d'argent. Maintenant, ça dépend, c'est quoi ton rapport à l'argent? On doit faire, tout simplement, dans tous les principaux domaines de notre existence, deux sortes d'ishtadlout. D'accord? Il y a l'ishtadlout ruchanit, il y a faire des efforts sur le plan spirituel, et l'ishtadlout tivit, et faire des efforts sur le plan naturel. C'est-à-dire l'argent, il ne va pas rentrer tout seul. Il y a une ségoula qui est rapportée par Chachamim, tu prends les Tehilim, tu lis les Tehilim, à ce qui paraît, c'est bon pour la parnassa. Maintenant, quand tu n'as pas de rentrée d'argent, tu peux rester chez toi tout seul dans ton salon toute la journée et lire les Tehilim toute la journée, l'argent, il ne va pas forcément rentrer à la fin de la journée. Donc, on a besoin de deux dimensions. Maintenant, on ne peut pas se concentrer sur une dimension au détriment de l'autre. Tu ne peux pas te dire, je m'assois et j'étudie toute la journée, Kadosh Baruch Hu, il va m'envoyer la parnassa. Tu n'as pas le droit de faire ça. D'accord? Et de l'autre côté, tu ne peux pas venir dire, ben, je vais travailler, je vais monter un super business, et la parnassa va tomber. Ben non. Parce que tu as quand même besoin d'un petit coup de pouce du bon Dieu. Donc on a besoin des deux. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la Torah, Vayechulu Hashamayim Vaharetz. C'est-à-dire, et la fin du passage, qu'est-ce que dit? Asher bara Elokim la asot. Donc Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Asher bara Elokim. Dieu a créé ce monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Oui ou non? Pourquoi tu rajoutes le mot la asot? Oh, tous le vendredi soir, on dit le verset, depuis des années. Il y en a un, il s'est déjà posé la question. Si Dieu, il a créé le monde, pourquoi tu dis la asot? Asher bara Elokim la asot. Dieu, il a créé pour faire. Qui doit faire? Dieu, il doit faire. Qui doit faire? Qui doit agir dans ce monde? Nous, les hommes. Asher bara Elokim la asot. Dieu, il t'a créé un ciel, une terre, une création fantastique pour que toi, tu viennes et que tu agisses. Agir, c'est deux dimensions. La dimension spirituelle, la dimension matérielle. Donc, le mot la asot, il n'est pas en trop. C'est pas pour Dieu, le mot la asot. C'est pour nous, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'est-ce qu'il fait Adam Harishon? Quand on lui dit Asher bara Elokim la asot, qu'est-ce qu'il a trouvé le moyen de faire lui? Chet Harishon, la faute originelle. Qu'est-ce qui se passe dans la faute originelle? Pourquoi on galère tous autant au niveau de notre parnassa aujourd'hui? Pourquoi la parnassa c'est compliqué? Du fait qu'il y a eu la faute originelle. D'accord? Et si on rappelle bien le détail de la faute originelle, c'est très compliqué en réalité. Parce que nous, comment on dépeint cela, comment c'est expliqué simplement? Il y a le serpent qui avait un corps d'humanoïde à l'époque. Donc des bras, des jambes, une taille d'homme, avec une tête de serpent. On ne sait pas comment il a fait avec sa tête. Il a réussi à séduire Chava, à ce qui paraît. C'est comme ça qu'on nous dit. Hein. Et que Chava, elle a fauté avec le serpent. Alors, on a qui disent Chava, elle est partie avec le serpent. Chava, elle n'est pas partie avec le serpent. On ne sait pas à la fin. Oui, il y a la version pour enfants, la version pour adultes. On ne sait pas. En réalité, on voit tout simplement qu'elle est venue, qu'elle a mangé le fruit de l'arbre. À Kadosh Baruch, il leur crée le Gan Eden. Il leur dit, écoute, dans ce monde, tu fais tout ce que tu veux. Un seul interdit. l'arbre qui est au centre du jardin d'Éden, tu ne manges pas son fruit. Adam Harishon, première khumra de l'histoire des khumrot, d'accord ? Comme quoi, des fois, les khumrot, c'est pas bon. Il dit à Chava, une fois qu'elle est créée, il lui dit, tu ne peux pas toucher l'arbre qui est au centre du jardin. Tu ne peux pas manger le fruit. C'est-à-dire, tu peux toucher l'arbre. Tu peux toucher le fruit. Tu peux cueillir le fruit, si tu veux. Dieu t'a dit, ne mange pas le fruit. Fais ce que tu veux, va jouer au foot avec le fruit, si tu veux. Mais le fruit, tu ne le manges pas. Lui, il est venu, il a dit, l'arbre, tu ne peux pas le toucher. Qu'est-ce qu'il fait, le serpent ? Il prend l'écorce de l'arbre, il mange devant Chava. Il dit, regarde, il m'arrête rien. Non seulement tu peux toucher, mais tu peux manger. Adam, il t'a menti. Et elle est arrivée comme ça avant à manger le fruit interdit. Maintenant, Adam Harishon, quand il voit que Chava elle a mangé le fruit interdit, qu'est-ce qu'il lui propose à Kadosh Baruch Hu ? C'est apporté dans le Midrash. Il lui propose de dire, bon, écoute, cette femme-là, on peut t'en faire une autre. Ce que beaucoup d'hommes auraient fait à la place de Adam. Ce que beaucoup d'hommes aimeraient faire dans notre génération, des fois. Ta femme, elle te prend la tête, si on te dit, tu peux la remplacer. Bon, c'est pas marrant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit tout simplement que lui, il dit non. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on me crée une femme. D'accord ? Donc, je vais assumer sa faute. Et on voit qu'Adam Harishon, quand il faute, il est conscient qu'il est en train de fauter. Il est conscient qu'il est en train d'infliger à sa descendance 6000 années de réparation. Oh. Et il est conscient qu'il est en train de rentrer en lui le mauvais penchant. Le mauvais penchant était externe à l'homme et à la femme. En mangeant le fruit interdit, il a entré en lui le mauvais penchant. Comment il s'appelle l'arbre au milieu du jardin ? Etz Adat, Tov Vara, l'arbre du savoir, du bien et du mal. Maintenant, Dat, Chochma, Bina, Dat. Ouais, Chabad, Baruch Hashem, c'est des notions de Kabbalah. Oui ? Je ne fais pas faillot, moi. Hein ? Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? Chochma, Bina, Dat. C'est quoi en réalité ? Chochma, Bina, Dat. Chochma, c'est pas ton intelligence, c'est ton potentiel au niveau de ta neshama. Bina, c'est l'utilisation de ton potentiel, ce que tu en fais. Da'at, c'est à quoi ça sert tout ça ? À t'unir avec Dieu. Le da'at, c'est l'union. Le lashon da'at, c'est s'unir. Va Avraham, yada et Sarah. Avraham, il n'a pas connu Sarah. Il n'a pas su Sarah. Avraham, il s'est uni à Sarah. Et c'est Yitzhak qui est venu au monde. C'est ce qu'elle te dit, la Torah. C'est quoi le lashon da'at ? C'est l'union. Etz Adat Tov Vara, c'est l'arbre d'une union du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu en réalité à Adam ? Il dit, ce monde n'est que bien. Je t'ai créé un monde, t'es au top, Baba. Ouais ? Maintenant, qu'est-ce que tu vois ? Je te demande une chose. Je t'ai créé un cerveau droit. Garde le droit. Laisse le mal en dehors de ta tête. Laisse le mal en dehors de toi. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu, qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné une Torah. Si tu étudies la Torah et tu l'appliques comme il faut, tu peux rendre ta tête un peu plus normale que ce qu'elle n'est. Tu peux arriver à réfléchir à travers le bien et à faire le bien autour de toi. Si tu commences à te laisser détourner par le monde matériel, par le kiff matériel, ça vient et ça va te gâcher ta vision de la Torah. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur les Dayanim ? Qu'ils n'ont pas le droit de prendre des pots de vin. Parce que l'argent, ça peut faire tourner la tête au plus grand des sages. L'argent. Non. C'est-à-dire moi, quand j'ai deux hommes d'affaires qui viennent me voir et qui ont des différentes, d'un seul coup, ils veulent tous me faire des dons. Vous occupez d'orphelins, de familles en difficulté, on peut vous faire un chèque ? Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi vous voulez faire des dons avant qu'on parle du différent ? Ouais ? Vous la connaissez ou pas ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bah, au Hachem, j'aurais pu me faire beaucoup d'oseilles, c'est dommage. J'habite tout le temps, toujours en location. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bah, au Hachem. Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement ? Et j'ai pas une bonne réputation, ce qui veut dire que c'est bien. C'est-à-dire, quand les gens viennent me voir, il n'y a aucun des deux qui est content. Ça veut dire que c'est un bon arrangement en général. Bon, bref, peut-être qu'ils ne sont pas contents parce que je suis nul. On ne sait pas. Alors maintenant, il faut essayer. On voit Baruch Hashem, tout simplement, ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi ? C'est on voit tout simplement qu'à cause de la faute originelle, c'est quoi la klala de l'homme ? Biziata pecha tochal lechem. À la sueur de ton visage, tu vas manger le pain. Ça veut dire que quoi ? La terre, avant, tu venais les chalotes dans les champs de blé. C'était pas des champs de blé, c'était des champs de chalotes. D'accord ? on va pas parler des champs de pavots parce que je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais on est à Netanya, on fait une petite vanne comme ça au passage. Mais qu'est-ce qu'on voit? Champs de blé, des chalotes. T'as pas besoin de travailler la terre et le blé, etc. pour obtenir la farine et de faire monter la pâte. Tu sais, ta femme, quand elle fait la challah à la maison, elle te dit, fais monter la pâte. Il faut pas qu'elle monte trop longtemps, après elle est pas contente. Mais ou non? Bref. Donc qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, on voit tout simplement qu'ils n'avaient pas besoin de travailler la terre pour obtenir leur nourriture. Il suffisait de se pencher, ils pouvaient se nourrir. Baruch HaShem, le pain poussait dans les champs. C'est extraordinaire, non? Le vin coulait à flot. Tu n'avais pas besoin, il n'y avait pas de supermarché. À cause de la faute originelle, les ronces, la vermine, tout est venu dans ce monde. Tu veux travailler une terre, tu laisses un champ se laisser aller, tu as un jardin, tu t'en occupes pas, tu as les mauvaises herbes qui débarquent. À cause de la faute originelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, il a deux notions. Il y a Sourmera va Asetov. Enlève le mal qui est en toi et fais le bien. C'est quoi Sourmera va Asetov en rapport avec la Parnassa? Parce qu'il y a différentes façons d'interpréter la chose. On dit tout simplement, Sourmera, c'est vérifie comment tu utilises ton argent. Est-ce que tu l'investis bien? Est-ce que quand tu donnes l'argent, par exemple, à la Tzedaka, est-ce que tu donnes ta Tzedaka à la bonne personne? Il faut savoir que quand on donne la Tzedaka, c'est une halakha qui est importante, il faut vérifier où est-ce qu'il va l'argent. Même tu as un très grand tzaddik en face de toi. On t'a dit c'est un grand tzaddik, c'est un grand. Toi, tu ne le connais pas. D'accord? Il faut vérifier qu'est-ce qu'il fait avec cet argent. Où est-ce qu'il va l'argent? Si toi, tu ne vérifies pas où est-ce qu'il va l'argent que tu donnes à la tzedaka, tu es en train de voler les pauvres. Quand on a aujourd'hui, malheureusement, énormément de familles ici à Netanya, je crois que vous connaissez un copain ici, Baruch HaShem, d'accord, qui s'occupe d'une association. Il y en a plein parmi vous qui l'aident. Dieu bénisse pour vous. Baruch HaShem, l'association Lev Tov, il fait des distributions de nourriture, etc. C'est extraordinaire ce qu'il fait parce que toutes les familles que je lui envoie, il les aide. Il faut voir les familles qu'on a, qui n'ont pas de quoi manger. Maintenant, essayez d'imaginer quand vous donnez la tzedaka à une personne qui n'est pas dans le besoin, qui n'a pas de problème, qui n'a aucun souci, et qui vous dit prendre de l'argent pour un kollel, pour une yeshiva, pour des pauvres, mais l'argent va dans sa poche. Et que de l'autre côté, ouais, mais c'est compliqué, tu peux pas savoir. Ben, je sais, c'est en la davarsof. C'est une histoire sans fin. Mais tout ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est nous, quand on donne l'argent à la tzedaka, c'est dans notre obligation de vérifier où est-ce qu'on donne. Ce qui veut dire que quand des fois tu as des problèmes au niveau de ta parnassa, revois où est-ce que tu donnes ton argent. Ou des fois même, tu donnes ton argent là où il faut. Ton argent à la tzedaka, tu le donnes là où il faut. Tu donnes à une très bonne association, à un très bon rave, il aide vraiment beaucoup de monde. Mais tu as oublié que dans ta famille, tu as un cousin qui n'a pas d'argent. Ou tu as un frère, ou tu as un oncle. Et pour des histoires de famille, ou pour des histoires où tu n'as pas envie de te prendre la tête pour une raison ou une autre, qui sont propres à chaque personne, ben on ne pense pas forcément à nos proches. Pourtant, dans Baba Metzia, Daf Aïn Amoud Alef, Aïn Amoud Alef, c'est facile de s'en souvenir, Aïn comme Am, Alef comme Echad. Un seul peuple, l'unité dans le peuple. On nous ordonne là-bas, on nous explique l'ordre qu'on doit faire dans la tzedaka. On dit, en premier lieu, tu dois donner aux membres de ta famille. Après, aux membres de ta communauté, aux membres de ta ville, aux membres du pays où tu es. Et on ajoute au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que ceux qui vont habiter en Israël, ils sont prioritaires parce que la parnasse en Israël est très, très compliquée. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? La première chose que tu dois vérifier dans ta famille, c'est qu'il y a un membre de ta famille qui est dans le besoin. Mieux que ça, moi je connais des cas pratiques où Dieu bénisse, il y a des familles où on donne aux grands raves et on donne aux grands raves et on donne aux grands raves, magnifique. Et on a un cousin, on a un frère dans la famille qui est avraire, qui est kollelman et qui essaye d'étudier pour devenir rave. Mais il ne va pas réussir parce qu'il lui manque un petit peu tous les mois pour arrondir la fin de mois. Il n'y a personne pour l'aider. Parce que toute la famille, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Mais toi, tu as fait tes chouvas, tu ne vas jamais devenir rave. Va travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Les rabbanim à qui vous donnez? Comment ils sont devenus de grands rabbanim? Et quand on regarde bien, ces rabbanim-là, ils viennent de familles, on les a soutenus pour devenir des grands rabbanim. Ils ont été soutenus par leur propre famille. Donc comment on fait, nous, quand on a dans nos familles des cousins, des amis, de la famille, des gens autour de nous qu'on a connus, et on ne les soutient pas? Eux, pour qu'ils puissent grandir en Torah. C'est peut-être que toi, tu donnes aux bonnes associations, aux bons endroits, mais tu n'as pas de bracha à leur donner à eux, parce que ton obligation à toi, c'est de donner d'abord à tes proches. Parce que le but de la tzedaka, c'est le tzedek. C'est pas juste Quand on a une femme, moi je m'occupe parfois de femmes divorcées avec des enfants, etc. Il n'y a personne de la famille qui les aide. Je dois faire à l'envers. Genre, quand j'apprends que dans la famille, il y a des gens qui sont riches, je vais voir les riches dans les familles. Moi, le Rav Ishaï, ils connaissent mon nom. Ils me voient sur Internet et tout, Rav Ishaï. Googlez-moi. Je leur fais comme ça, sur Google. Vous voyez, c'est pour les Google. Ils vont chercher, ils kiffent. Rav Ishaï, il est venu me voir. Attends, quand même. Oui ou non? Ils me donnent la tzedaka et les gens ne savent même pas que c'est pour aider leur nièce, leur fille, leur cousine. C'est quand même fou. Ou il y en a d'autres à qui je dis comme ça, réellement. Des fois, c'est compliqué parce que tu vas en aider un dans ta famille, mais tu ne veux pas créer un malaise, un mal-être. Viens me voir, moi, le Rav Ishaï. Donne-moi à moi l'argent et dis-moi, Rav Ishaï, cet argent que je te donne, c'est pour aider mon cousin, pour aider ma tante, pour aider ma grand-mère. Va, tu donnes toi. Le Rav, on ne peut pas lui refuser, parce que même s'il me refuse, moi, j'ai grandi à Sarcelles, je sais faire en sorte qu'on accepte ce que je dis. Ouais. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? Bah, au Hachem. Qu'est-ce qu'on voit? Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que c'est aussi une façon de gérer sa parnassa. D'accord? Une personne qui a une mauvaise gestion, d'accord? Elle ne peut pas venir dire que Dieu ne s'inquiète pas de lui. Des fois, on se remet en question. Attends, j'ai du mal avec ma parnassa. Pourtant, j'ai mis les tefillines le matin. Je suis parti au shiur. J'ai mis Rashi, Rabbeinu Tam. J'ai tout fait et ça ne se débloque pas. Oui? Mais tu gères mal ton argent. D'abord, un, tu ne fais pas Torah Mitzvot pour avoir les portes du ciel qui s'ouvrent. Tu fais pas Torah Mitzvot pour débloquer uniquement ta parnassa, c'est un mauvais rapport à l'argent. Tu fais Torah Mitzvot parce que tu as un Dieu qui a créé ce monde et qui t'a dit, toi, en tant que juif, tu dois faire Torah Mitzvot. Point. Maintenant, ce qui se passe, tout simplement, c'est toi, tu gères mal ton argent. Qu'est-ce qui se passe? Shlomo HaMelech, il dit, « Ivelet Adam Tesalef Darko, Ve'al Hashem Izav Libo. » C'est dans Michelet, d'accord? On voit Perek Yutet, Pasuk Gimel là-bas. Qu'est-ce qu'on voit, tout simplement? On dit que la bêtise de l'homme, la pire bêtise de l'homme qui soit, c'est tout simplement, c'est de laisser sa bêtise le détourner de son chemin et de venir et de laisser son cœur s'envenimer contre Dieu. C'est toi qui es en train de te laisser détourner. C'est toi qui te rends dans des trucs pas possibles. C'est toi qui te rends dans des calculs pas possibles. C'est toi qui gères mal ton argent. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Khemcha, 5 sur toi. Tiens. Bah, attends, je vais te donner mon rib à la fin. Viens. Parle pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bah, au Khachem. Attends. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, au Khachem. Attends. Tunisien, la racine de Tunisien, c'est thune. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bah, au Khachem. On voit que, par exemple, tenir sa gestion, mieux gérer son argent, mieux gérer la tzedaka qu'on donne, mieux gérer le foyer. Mieux éduquer ses enfants, n'est pas les habituer à tout et n'importe quoi dans la maison. Oui, ne jamais faire de promesses qu'on ne peut pas tenir, etc., etc. Ça rapporte la bracha. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, Chachamim nous disent, il n'y a aucun métier qui peut te garantir à 100% que tu vas réussir ta vie et gagner ta vie. Aucun métier. Je vous ai raconté au début, des types qui recyclent les ordures, qui deviennent milliardaires. Et d'autres qui ont des diplômes de médecins et de chirurgiens qui n'arrivent pas à gagner leur vie, alors qu'ils bossent. On voit en réalité que la parnassa, en réalité, que l'on veuille ou non, elle dépend d'Akadosh Baruch Hu. Shalom. On voit, Baruch Hashem, que premièrement, quand on veut travailler dans quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait. Ça a l'air idiot. Ça a l'air vraiment idiot ce que je dis. Hein. Déjà, si tu n'aimes pas ce que tu fais pour gagner ta vie, hein? Exactement. Exactement. Mais toi, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Ça rapporte la bracha. On voit Baruch Hashem que la simcha, tu me diras après ce que tu fais. Alors maintenant, on voit que la simcha dans la vie, tout simplement, la simcha, c'est une source de bracha. Donc déjà, faire un métier qui te plaît. De la même façon, ton enfant, quand tu vas éduquer tes enfants, de les encourager à faire ce qu'ils aiment. Tu comprends ce que je veux te dire? Même quand tu veux éduquer un enfant dans le Derech HaTorah, il faut lui trouver une passion en parallèle qui soit un petit peu en dehors de la Torah pour qu'il ait un échappatoire, un exutoire en réalité. Un endroit où il peut enlever tout le lachatz qu'il a sur lui-même, entre guillemets, toute la pression qu'il a sur lui-même. Le sport, c'est bien, par exemple. Baruch Hashem. Donc, on voit Baruch Hashem, quand on voit tout ça, la bracha, elle n'est pas du tout dans l'argent. Chachamim dans Sanhedrin, ils me disent qu'un homme avant de descendre dans ce monde, une personne avant de descendre dans ce monde, il est décidé si elle sera riche ou si elle sera pauvre. Dans Masechet Brachot, dans Masechet Sota et dans la Kabbalah, on nous enseigne malgré ça qu'on peut changer notre mazal. Ah bah ouais. C'est-à-dire, il y a déjà une zéra sur ta tête avant que tu descendes dans ce monde. Oui. Quand moi je suis venu au monde à Sarcelles, la xéra sur ma tête c'était de pas être riche, hein. C'est d'avoir des parents forains, Baruch Hashem. Ok? Et des bons parents, Baruch Hashem. Mais je suis pas venu au monde dans une famille riche. Donc il y avait déjà sur ma tête une xéra. Tu vas pas être riche. Mais le mazal, on peut le changer. Le mazal, notre mazal, on peut le changer. C'est ça qui est extraordinaire. À travers les choix qu'on fait, on voit que dans Maseret Nida, il est à Kadosh Baruch Hu, il s'est rapporté qu'il nomme un ange pour toutes les grossesses. D'accord? Et l'ange, il montre l'ovule. Et là-bas, l'ovule, il est appelé Tipa. La Tipa, on la prend jusque devant la Kadosh Baruch Hu. Et on demande à Dieu, d'accord? Si la personne, elle sera, quand elle viendra au monde, malade ou en bonne santé. Jusqu'à quel âge elle sera en bonne santé, jusqu'à quel âge elle sera malade. D'accord? Si elle sera riche ou si elle sera pauvre, si elle sera beau ou moche, si elle sera intelligent ou idiote. Ce qui veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il est en train de dire au malard comment gérer le génome des gènes de la personne dans le ventre de sa mère. C'est extraordinaire. Hein? Non, je ne sais pas. T'as vu ma tête? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que dès le départ maintenant, dès le départ. Oh! Dès le départ, t'as un problème. Non, mais t'inquiète pas, tu peux devenir beau. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit... Arrête. Attends, arrête. Pas devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? J'ai compris. J'ai compris. On voit Baruch Hashem tout simplement. On voit Baruch Hashem tout simplement que la véritable richesse dans ce monde, d'accord?
C'est celui qui se contente de ce qu'il a.
Elle est déjà, peut-être sans aucun rapport avec ton comportement, vu qu'elle est déjà décidée avant que tu viennes au monde. Ouais, celui qui se contente de ce qu'il a, les yeux à Achir, à sa mère Bechelko. Ça, on la sait. D'accord? Mais viens, on va aller directement au Inyan. On voit Baruch Hashem que le Ham Israël, on va terminer là-dessus, je ne veux pas vous prendre trop de temps, je vois que vous avez chaud, le Masgani ne marche pas bien. Moi j'ai Shranat à Mammouth. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le Ham Israël, il a une chose qui est extraordinaire. Un, premièrement, c'est marqué dans Maseret Shabbat que En Mazal l'Israël. Israël met à la Mazal. Donc on n'a pas de Mazal. On peut tout changer pour nous. Tout, du tout au tout. Mais n'importe quel être humain, s'il décide de se prendre en main, il peut tout changer pour lui. Israël ma'al hamazal, ça veut dire quoi? C'est que quand nous, dans notre façon d'agir, en faisant Torah Mitzvot, on peut tout changer. On peut changer toute la donne pour nous. Et on le voit. On voit des garçons venir au monde dans des familles modestes et devenir riches, on ne sait même pas comment, Ben Porat Yosef, en faisant des trucs tout simples. Ouais. Le type qui est devenu multimilliardaire, moi je rêve de le connaître celui-là, celui qui a fait dans les cocktails là. C'est pas les palmiers, les parapluies que tu mets dans le cocktail. Oui ou non? Celui-là, il est devenu multimilliardaire. Oui ou non? Il y avait pensé, lui, dans sa cave, quand il était en train de faire son premier parapluie à cocktail. Ce que j'essaye de dire, Baruch Hashem, que s'il y a une xéra sur un homme qui soit pauvre, cette xéra, elle peut changer pour qu'il devienne riche. On voit que quand HaKadosh Baruch Hu s'est adressé à Avraham, « Vayotze oto achutza », il a fait sortir Avraham à l'extérieur pour lui montrer les étoiles, lui promettre que sa descendance, elle sera comme les étoiles dans le ciel. D'accord? Donc le Rambam, il vient, il dit, ça veut dire quoi exactement qu'il n'y a pas de mazal pour l'homme Israël? Ça veut dire que tout dépend de ton mazal. Quand tu viens au monde, tout dépend du mazal. C'est-à-dire, en réalité, Dieu, il décide de ton mazal, c'est ton tikkun que tu dois faire dans ce monde. Si tu viens en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est un tikkun. Si tu viens beau ou moche, ceci est un tikkun. Des fois, il y a des moches, tu ne peux pas les réparer. Des fois, il y a des beaux non plus, tu ne peux pas les réparer. Quelqu'un, des fois, de trop beau, les beaux gosses, c'est un véritable problème. Moi, j'en ai connu un, il était tellement beau gosse que son rave disait, tu ne te couperas pas les cheveux jusqu'à après, Shavuot. Comment il était beau gosse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? D'accord? Pendant la période du Homer. Jusqu'à après, Shavuot, ne te coupe pas les cheveux pour Shavuot. Le soir de la veillée, ne te coupe pas les cheveux. Les filles vont lui courir après s'il court les cheveux. Il est trop beau. Des fois, être beau, c'est compliqué. Des fois, c'est... Oui ou non? Des fois, il vaut mieux être moche et charmant que beau et idiot. T'as compris? Moi, je préfère ton beau-frère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? C'est toi qui as commencé. Alors maintenant, Baruch Hashem. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit ? Dieu bénisse. On voit justement que quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sors, c'est-à-dire quoi ? Pour changer ton mazal, tu dois sortir de ta propre nature. Tu dois aller au-delà de tes limites. Tu dois chercher à te dépasser. Et c'est là que tu commences à avoir la véritable bracha. La véritable bracha, c'est de ne pas chercher d'explication à la Torah au Mitzvot. On voit aujourd'hui des cours. Ah, pourquoi on ne doit pas mélanger la viande ? Bah, c'est un grand secret. On nous explique pourquoi tu ne dois pas mélanger la viande. C'est bon pour la santé. Les médecins, ils l'ont prouvé. Aux États-Unis, ils ont dit parce qu'ils mangent les cheeseburgers, ils ont plus de cancer du côlon qu'ailleurs. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans leur fromage ? C'est pas du fromage. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leur viande ? C'est pas de la viande. Moi, il y a un docteur en médecine, docteur Chouraki, d'accord, qui donne beaucoup de cours de Torah. Il fait partie de l'organisation Arachin. Il nous a dit une chose extraordinaire. J'ai entendu de sa bouche une chose fantastique. Il a des patients âgés, non juifs, qui mélangent le lait et la viande tous les jours depuis des années, qui mangent non kasher et qui sont en parfaite santé. Parfaite santé. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le fait est, tu ne peux pas venir dire tu ne vas pas mélanger la viande, tu vas manger kasher par norme d'hygiène uniquement parce que c'est pour ta bonne santé. C'est peut-être vrai. Mais en réalité, pourquoi tu ne vas pas mélanger de la viande, le lait et la viande ? Parce que Dieu il t'a dit, ne mange pas le lait et la viande, arrête de te prendre la tête. Dieu il t'a dit, toi en tant que juif, tu ne manges pas le lait et la viande. C'est toi en tant que Neshama qui fait la Torah et les Mitzvot, à travers le fait que tu prennes sur toi cette ordonnance divine, tu es en train de créer une bracha dans ta vie, une bracha dans l'humanité. Parce que c'est ton potentiel à toi en tant que Yehudi. Va pas chercher plus loin que ça. Si tu commences à chercher des explications et à rentrer dans les cours, on va expliquer Torah et science. À la finale, le jour où les scientifiques vont dire l'inverse de ce qu'ils ont découvert il y a 20 ans, tous ces cours-là qui ont été donnés entre-temps grâce à ces dernières nouvelles, elles vont tomber. Qu'est-ce qu'on se permet, nous, de vouloir interpréter la Torah par rapport à la science ? La Torah, c'est la Torah. Si Dieu t'a donné la Torah, l'intelligence divine, elle nous dépasse. On ne peut même pas l'expliquer pourquoi il nous a dit « ne mélange pas la viande ». Même si t'énerves quand t'étais à Sarcelles. Parce que tu veux le manger, le cheeseburger. Ouais. Cacher, hein. Tu mets le fromage cacher, la viande cacher. Tu sais, comme dans les restos à Tel Aviv, tout est cacher. Mais il mélange la viande, tout est cacher, tout va bien. Ouais. On voit, bon, on vous aime à Tel Aviv, on aime tout le monde, nous, hein, Baruch HaShem. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, hein? On voit qu'il y a un inyan qui est extraordinaire. On voit que les véritables... On va donner Tachlès, les Maasés, les Mitzvot qui sont importantes pour améliorer sa parnassa. D'accord ? Première Mitzvah qui est extrêmement importante, le Netilat avant Motsi. Faire Netilat avant de manger. D'accord ? Deuxième Enyan, de faire Netilat sans bracha avant de prendre un gâteau et de le tremper dans l'eau. Alors je sais que les Juifs de Hollande, ils n'ont pas cette coutume, qu'il y en a certains qui ont plus cette coutume. D'accord ? Mais réellement, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch et c'est bien de l'appliquer. C'est pas une Midat Rassidut, c'est halakha les Maasés. Viens, je te reprends. Tu vois le gâteau ?
Les olives, tout ça, tout ce qui est
mouillé. Oui. Tu vois le gâteau ? Il est sec. Je le trempe dans le verre d'eau. Il devient mouillé. Avant de prendre le gâteau et de le mouiller, ou avant de manger un aliment qui est lard, qui est ras, qui est mouillé, qui est humide, il faut que je me lave les mains. D'accord ? Comme le Netilat avant de manger le pain, mais sans faire la bracha. Il faut que je me purifie les mains. Et tu vois, hein ? Oui, alors tu pourrais dire, par norme d'hygiène, c'est vrai, mais c'est le Netilat. Tu prends le Kéli, trois d'un côté, trois de l'autre. Il y a beaucoup de sodotes dans ce Netilat, les enfants. D'abord, tu prends dans la main gauche, tu passes dans la main droite, et tu fais trois fois là, et après trois fois là. Pourquoi tu fais tout ça ? Tu comprends ce que je veux te dire ? Il y a au-delà de la logique, d'accord ? Et de l'hygiène. Exactement. Il y a énormément de choses. De faire attention à ça, le Netilat. Quand tu fais Netilat avant Motsi, de prendre le temps de mettre la bonne quantité d'eau, de bien remplir ton keli, oui, de bien le remplir, de prendre le temps de bien verser. Quand tu fais Netilat, de prendre le temps, tu plies les doigts et tu tournes la main de façon à ce que l'eau arrive jusqu'à l'os du poignet ici. Oui. Après, une fois que tu as fait Netilat, ne relève pas les mains pour pas que l'eau qui est sur les mains retombe sur les avant-bras. C'est pas bon. Ah ouais. Parce que les avant-bras, il y a une touma sur les avant-bras qui reviennent sur les mains. Donc tu fais attention, tu gardes tes mains face à toi. Et quand tu fais la bracha, c'est rapporté par le Ben Ishraï, c'est rapporté par le Rachash, c'est rapporté par l'Admour Hazaken. C'est rapporté par le Rav Shalom Dovber, mon préféré. Hein, que il est moins connu que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il a les plus beaux sfarim chez Chabad. Baruch HaShem. On voit quoi ? Excusez-moi pour les autres, hein, mais il a des sfarim extraordinaires. On voit quoi tout simplement ? On voit tout simplement que c'est important quand on fait l'itilat de mettre les mains face à nous. Comme si qu'on a un bébé dans les bras, comme si que la bracha est en train de tomber dans tes bras. Et tu fais la bracha et après tu t'essuies les mains. Quand tu fais ça, tu rajoutes. C'est important. Et de mettre de l'eau abondamment. Et jusque là. Pas jusqu'au doigt, ou pas jusque là, ou pas de l'eau, tu l'as mis jusqu'au coude. C'est des points qui sont importants. D'accord ?
Vaut mieux enlever la montre.
Et de faire birkat. Oui, vaut mieux enlever la montre. Et de faire birkat Amazon. C'est un problème. La montre, moi, quand je mets une montre, tout simplement, je laisse toujours un peu large pour pouvoir la remonter bien, qu'elle ne soit pas sur le poignet. La montre, quand je fais une étilade, c'est un problème. D'accord ? Au niveau de la halakha. Donc, soit vous enlevez votre montre, soit la montre, vous l'élargissez un peu pour qu'elle retombe un peu. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch HaShem ? On voit que ça, c'est des points qui sont importants. Birkat Amazon. Il y en a plein. On ne fait pas birkat Amazon ou quand on le fait, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On le fait en 20 secondes. Vous voyez ? On ne se rend pas compte parce que moi, je fais birkat, par exemple, depuis que je suis tout petit. Et quand je me suis marié, ma femme m'a dit « Oh, birkat, tu le fais en 30 secondes ?» Et en fait, je me rendais pas compte que je le connaissais par cœur. Avec le temps, je le faisais à voix basse et que je pensais le faire. Vous voyez ? Et que quand je me suis amusé à voir le temps que je mettais pour faire birkat à voix basse et le temps que je mettais pour le faire à voix haute, c'est impossible, même si j'entends dans ma tête tous les mots, c'est impossible sur le plan humain que j'arrivais à dire tous les mots. Donc c'est important ton birkat, que tu prennes le temps de le dire mila, mila, chaque mot, que tu entendes bien comme il faut à ton oreille les mots que tu es en train de dire, et de prendre le temps de faire birkat. Et à chaque fois que tu fais motzi, avant tu fais netilat avec bracha, tu fais la bracha sur motzi et birkat amazon. Tu le fais, c'est goula extraordinaire pour la parnassa. Mais le faire comme il faut. Et quand tu fais motzi, de bien t'assurer que tes mains sont bien sèches. Ne va pas attraper le pain avec les mains bouillées. Sinon, toute la touma, c'est quoi Netilat Yadayim ? Netilat, litol, tu enlèves des mains. Qu'est-ce que tu enlèves de mains ? L'impureté qu'il y a sur tes mains. Si tes mains sont mouillées, toute l'impureté qu'il y a dans l'eau, elle va sur le pain. Oui ? Il y a un sens à cela. C'est pas pour rien. Tu te débarrasses de quelque chose. Tu te débarrasses de ta clipa. Il y a Maïm Rishonim, Netilat avant Motsi, d'accord ? Et Maïm Acharonim. Oui ? Les dernières ablutions. J'adore la traduction. Et bien, Macharonim aussi, c'est une ségoula extraordinaire pour ta parnassa. Maintenant, l'autre point qu'il y a, c'est que quand tu fais ça, et que tu prends le temps, et que quand dans ton birkat amazon, tu dis va achalta, va savata, overarta, et tachem elokecha, la arrête, satova, shatan, lach, c'est extrêmement important de prendre le temps de dire ce verset-là. D'accord ? On va terminer, Bezrat Hashem, parce qu'il y en a qui sont endormis à l'arrière, ils ne sont pas bien. On voit que le dernier point qu'il y a, c'est que quand tu fais ces petits points-là, pour ta parnassa, etc., d'accord ? On voit Baruch HaShem, on fera peut-être en deux fois, une autre fois, si vous voulez. On voit Baruch HaShem, qu'à partir de ce moment-là, tu élèves ton foyer à la dimension de la Malkout. Il y a 10 sphères. On a rappelé que dans Bracha, la dernière lettre, c'est le He. Le He, ça représente la Malkout. Le He, c'est une lettre centrale dans la Torah. Le He, c'est la lettre de la création. Beaucoup de gens, quand on vend... Les otiotes dans le Sefer Torah, ils veulent tous la lettre Yud. Alors que la lettre la plus importante dans la Torah, c'est le He. C'est un truc de fou. C'est la lettre. Dans la lettre He, on peut avoir toutes les lettres. Parce que Alpi Kabbalah, le He, on peut l'écrire avec différentes lettres. On peut l'écrire avec un Vav et un Dalet, avec un Resh et avec un Yud. Bref. D'accord ? Avec une partie du Chaf, de prendre le Chaf et de le décomposer, de détacher la petite partie du bas pour avoir le He. Avec le He, tu peux écrire toutes les lettres de la Torah. C'est extraordinaire. On dit que Dieu, la première lettre qu'il a utilisée pour utiliser toutes les autres lettres, c'est le He, la lettre de la Malchut. D'accord ? D'ailleurs, la Malchut, c'est la royauté. D'accord ? Et on dit que ce qui représente la royauté dans ce monde, c'est l'entité féminine qu'il y a en chacun d'entre nous. Oui, messieurs, en chaque homme, il y a une partie de Malchut. Et en chaque femme, il y a une partie de Gvura. Donc, il y a une entité masculine dans toute femme, et une entité féminine dans tout homme. Moi, je sais parce que bientôt, ils vont faire encore la Gay Pride à Natania. Donc, il faut parler de ces trucs-là. On en parle dans la Kabbalah. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des hommes ou des femmes dans notre tête et qu'on n'est pas au courant et qu'on n'a pas le bon corps. Ça veut dire qu'en chacun d'entre nous, il y a toutes les essences même des qualités divines de Dieu. D'accord ? Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Malchut, qui est l'essence même de la vie, on dit que c'est l'entité féminine de ce monde. la partie féminine qu'il y a dans Dieu, entre guillemets. La force féminine de ce monde, qui est d'enfanter, de mettre au monde la vie dans ce monde. Quand un homme étudie la Torah et enseigne la Torah, quand un homme étudie quelque chose et enseigne à ses enfants, il est en train d'insuffler la vie autour de lui. Il est en train d'utiliser son entité féminine, la partie divine qui est en lui, qui est là pour insuffler la vie et propager la vie dans ce monde à travers son enseignement. Vous comprenez ou pas? Raison pour laquelle, quand on compare les rabbanim et le minag des rabbanan, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Shema beni Moussa Ravicha, écoute mon fils, la morale de ton père, c'est la Torah de Dieu. Val titosh Torah timecha, ne te dérobe pas de la Torah de ta mère, c'est la loi, les alachot des rabbanan, les lois des rabbanim. Donc les rabbanim, on les compare aux mamans. Pourquoi? Parce que quand ils sont en train d'enseigner la Torah, tous les rabbanim, nos chachamim, ils utilisent une entité féminine pour donner la vie à l'ensemble du clan Israël. C'est la malchoute. Cette malchoute, ton foyer, tu l'élèves au niveau de la malchoute. Quand tu élèves ton foyer au niveau de la malchoute, tout ton foyer, tout ce qui se passe dans ta maison, non seulement ça donne la vie dans la maison, mais ça donne la vie en dehors de ta maison. Quand tu vois des gens qui ont la bracha et qui utilisent la bracha pour aider leurs prochains, ils insufflent la vie autour d'eux. Tu as une bonne parnassa, tu utilises ta parnassa pour aider les gens autour de toi à faire des cartons de nourriture, etc. Tu insuffles la vie autour de toi. Ouais, c'est fou. Maintenant, attends bien. Le hé de la malchoute, qui représente l'entité féminine, comment tu vois que c'est le hémet? Parce que dans l'Lachon HaKodesh, à chaque fois que tu veux conjuguer un mot au féminin, quelle lettre tu rajoutes? Ish, comment tu le dis en hébreu? Isha, tu mets le hé. Yeled, comment tu le dis? Yalda. Et ainsi de suite. Le hé, tu le mets partout. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que ce hé aussi, dans ta maison, c'est qui l'entité féminine par excellence? Ta femme. Quand tu gères bien ta parnassa, ta femme, tu vas la rendre heureuse sans même qu'elle comprenne. Ça veut dire, pendant longtemps, on disait, c'est important de rendre sa femme heureuse parce qu'une femme malheureuse dans la maison, elle va bloquer la parnassa à son mari. C'est vrai. Mais en réalité, un mari, il n'a pas besoin, forcément, d'attendre que sa femme elle soit heureuse. S'il fait tout ce qu'il faut, au niveau de sa gestion, au niveau de sa avodat Hashem, au niveau de ses brachot, la femme d'elle-même, elle va être épanouie. Je vais vous donner un exemple simple. Un exemple simple. La majeure partie de nos femmes, que Dieu leur prête une longue vie jusqu'à 120 ans, mesdames, si vous nous regardez, voilà, Baruch Hashem, voilà, vous avez reconnu la synagogue, on est avec vos maris, on voit tout simplement, Baruch Hashem, une chose extraordinaire. Quand elles viennent et qu'elles passent leur vendredi à préparer le Shabbat. Oui. Et nous, on n'est pas forcément là pour les aider. Qu'elles ont peut-être fait les courses la veille et que nous, on ne les a pas forcément aidées parce qu'on travaillait. Oui. Elles attendent quoi? Elles attendent que le mari, quand il rentre vendredi soir de la synagogue, qu'est-ce qu'il a au visage?
Sourire.
Pas il est crevé de sa semaine. Pas il rentre avec une embrouille. Celui-là, il m'a dit bonjour. Celui-là, il m'a pas dit bonjour. Le rave, il m'a pris la tête. Le rave, il m'a pas pris la tête. Tu rentres, sourire. Pas tu fais la remarque à ce gosse ou à celui-là, t'es venu à la synagogue, t'es pas venu à la synagogue, oui? Kevin, enlève ton pied de la tête de ta sœur, je sais pas moi, Dieu bénisse, on est des enfants, Ben pourra tu sais aujourd'hui. Ce que j'essaye de dire c'est quoi? C'est tout simplement c'est quoi? Le mari il rentre souriant, il fait un kiddush, il a un petit vartora, sur un malentendu, ou une petite histoire à raconter au gosse, ou une petite blague à raconter à sa femme, une blague, oui ou non? C'est pas trop compliqué les blagues. Moi, j'en connais bien, mais plein, mais je les ai appris à Sarcelles à l'époque, je ne peux plus les raconter, je suis rabbin. C'est compliqué. Alors, mais maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on voit Baruch HaShem, tu vois, un petit mot. Et après, le samedi matin, tu vas à la synagogue. La synagogue, les enfants. À la fin de la synagogue, qui douche? Te lâche pas sur la boucha ou la vodka ou je ne sais pas ce qu'il y a. Rentre pas chez toi à la maison déjà fracassé. Après, tu fais qui douche, tu bois ton verre de vin. Et t'es fracassé, tu vas dormir jusqu'au lendemain matin. Ou tu vas te lever au radar pour arriver à Mincha. C'est Odash Lichit. Et ta femme, elle t'a pas vu tout Shabbat. Non, mais il faut me comprendre que votre arabe, moi je fume sur la cigarette, Shabbat, c'est compliqué. Oui? Il y en a un tout à l'heure, il m'a dit ça. Je dis, t'as qu'à te faire un space cake, baba. Excusez-moi, c'est comme ça que ça s'appelle ou pas? Ouais, bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Oui, je sais, je suis un peu fou. Je m'en fous, on est sur Internet, Facebook ou Boubouk. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? J'essaye d'expliquer c'est quoi? Baruch HaShem. C'est en réalité, tu tombes dans les Yetzera. Ta femme, elle attend quoi? Tu rentres à la maison. Ouais? T'es joyeux. Tu fais un petit Vartora. T'es un peu à table. Tu vas faire une sieste. D'accord? Baruch HaShem. Mais tu vas te lever, tu vas te promener avec ta femme. Tu sais quoi, la promenade avec ta femme? La promenade avec les gosses, les petits? un petit moment comme ça de kiff. Si vous arrivez ici à mettre en place un truc qui s'appelle Avot ou Banim, avant Mincha de prendre les gosses, de les faire venir étudier, ou de leur faire lire les Tehillim et de leur donner des glaces, et vous venez avec eux, non ? Je sais pas moi, hein ? Et d'organiser un tirage au sort, il y en a un, il peut gagner je sais pas quoi moi ? Un yo-yo, un voyage à Ouman, un vélo électrique, je sais pas. C'est ce que vous voulez. Non, parce que les gosses d'aujourd'hui, on sait plus ce qu'ils veulent. C'est compliqué. Alors, tout simplement, ce que j'essaye de dire, c'est quoi ? On voit Baruch Hashem, Ishtabar Shemolad, que quand tu fais ces petits efforts-là, cette petite gestion-là, ta femme d'elle-même, elle va être heureuse. Ta femme, si elle voit que tu vas à la synagogue, que tu rentres de la synagogue, que tu es content, que tu fais un petit Vartora, déjà, elle est heureuse. Et ça va t'enlever beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Parce que quand une femme a l'impression qu'elle fait des efforts, mais qu'elle n'a pas de retour, la bracha, il n'y a plus dans la maison. Il n'y a plus la bracha. Comme toi, tu attends de Dieu qui te donne, pour que Dieu te donne, Asher bara Elohim la asot, toi tu dois faire. Fais, donne, Dieu il va te rendre. Il y a un verset extraordinaire, on terminera là-dessus, et, parce qu'il y a encore 10 pages les enfants, parce que je n'ai pas envie de vous tuer. J'ai pas envie de vous assumer, il y a plein de trucs à dire. Il y a un enseignement extraordinaire. On voit dans la Torah, c'est marqué Venatnu. D'accord ? Venatnu, tu écris ça comment ? Vav, Nun, Tav, Nun, Vav. Gaon de Vilna, il dit, écris-le à l'envers. Venatnu. Maintenant, ce qui est extraordinaire, quand tu le conjugues, ça peut soit vouloir dire, il leur a donné, donc le singulier qui a donné au pluriel, donc c'est Dieu qui donne à l'ensemble de l'humanité. D'accord ? Ou tu peux aussi le traduire Venatnu, ils lui ont donné. C'est l'ensemble de l'humanité qui a donné à Dieu. Ce qui veut dire que quand toi tu donnes autour de toi, Dieu il ne te demande pas de lui donner à lui. Dieu il ne te demande pas de Shabbat et Kashrut et Tfilim et tout va aller. Le plus important pour Dieu c'est quoi ? Ben Adam le Chavero. Comment tu te comportes avec ton prochain ? Comment tu te comportes avec celui qui a besoin dans ta communauté ? Comment tu te comportes avec ton Rav ? Comment tu te comportes avec ton prochain, ton voisin, ton ami ? Ton frère, comment on le voit ? Les enfants, Rosh Hashanah, c'est pas moi qui l'invente. Si toi, t'as fauté vis-à-vis de Dieu, un peu Shabbat, t'as un peu déliré. Ouais, ça peut arriver. Vous voyez ? Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Un peu la cache-route, tu t'es planté une fois, t'as pas attendu 6 heures entre la viande, ou d'accord ? Ou t'es rentré dans un resto, t'as pas vérifié la table de cache-route avant de commencer à manger, tu pensais que c'était cachère. Ok ? Ça peut arriver. Bon, c'est pas, vas-y, moi, tu vois, ou pas, comment je te la vends un peu, ou l'histoire, ou pas. Bon. Mais toi, qu'est-ce qu'on voit ? Attends, je te l'emballe, j'ai fait des marchés. Alors, mais toi, qu'est-ce qu'on voit ? Baruch Hashem. Troisième point, Théa, c'est quoi ? Et c'est important. Troisième point, c'est quoi ? C'est tout simplement que t'as un peu déliré entre toi et Akadosh Baruch Hu. C'est entre toi et le bon Dieu. Dieu, il te dit, demande-moi pardon, je te pardonne. Rosh Hashanah Kippour, prends sur toi de faire tes chouva, demande-moi pardon, je te pardonne. Ça veut pas dire, je te demande pardon et je vais recommencer tout de suite après. C'est-à-dire, réellement, tu veux faire tes chouvas. Dieu, il te pardonne. Ben Adam, les chavero, t'as fauté vis-à-vis de ton prochain. Il te dit quoi, le Dieu ? Bon Dieu, il te dit, je peux pas te pardonner tant que t'as pas demandé Birkila à l'autre. Tant que l'autre t'a pas pardonné, que t'es pas parti lui demander pardon. Maintenant, même, tu vas lui demander pardon, l'autre, c'est un compliqué. Oui ? Et compliqué, tu peux le lire en trois mots, des fois. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tu vas le voir et tu lui demandes pardon une fois. Il veut pas. Deux fois. Il veut pas. Trois fois. T'as déjà demandé trois fois, il veut plus, c'est son problème, c'est pas ton problème. Toi, t'as fait ton job. Oui, tu vas le voir à trois reprises, et si besoin, devant témoins, pour lui demander Mechila, de gens qui sont au courant du malaise qu'il y a eu entre vous. Tu vas lui demander Mechila à trois reprises. Si au bout de la troisième reprise, il refuse toujours de te pardonner, le bon Dieu dit, toi, t'as fait l'effort, t'es fait honte à toi-même devant les autres pour lui demander Mechila. Donc ça montre que tu vas faire un effort, et que tu t'es déjà remis en question. C'est pas Tmani que tu vas demander pardon pour être tranquille avec le bon Dieu. Hein ? Oui ? Ce que j'essaye d'expliquer. Tu comprends ce que je veux te dire ? Maintenant, qu'est-ce qu'on te voit tout simplement ? On te dit, donc tu vois que pour le bon Dieu, le plus important pour lui, c'est Ben Adam et Chavero. Donc toi, tu veux ta parnassa, elle se débloque. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton prochain ? Comment tu parles de ton prochain ? Oui ? Chaim ve-mavet be-yad al-lashon. Comment tu parles de ton prochain ? Il y a un monsieur, il a un problème avec sa femme. Comment toi, t'es venu, tu parles du problème qu'il a eu avec sa femme. Peut-être que tu l'as tué le couple quand tu viens, tu te mêles. Peut-être que nous tous, quand on est au courant d'une grosse embrouille, on a tous à dire un petit mot, on a tué quelqu'un, on a tué un couple, on a tué une famille, sans le savoir. Et que ça peut nous enlever la parnassa. Comment nous, on doit se remettre en question. Comment nous, on parle de notre prochain? Comment nous, on se comporte vis-à-vis de nos prochains? Comment nous, on se comporte avec notre femme et nos enfants? Comment notre femme, mettons ça, toi, tu fais tout comme il faut? Ta femme, elle ne se comporte pas bien vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de tes enfants. Elle bloque la parnasse. Ouais, ben, tu parles beaucoup avec ta femme. Moi, je parle beaucoup avec ma femme. Il n'y a que ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux que parler. Attends. Ça sert à rien de crier. Attends. Attends, attends. Parce que... Attends. Ça suffit. Alors, Baruch HaShem, ce que j'essaye de dire... Non, ce que j'essaye de dire plus sérieusement, Baruch HaShem, ça sert à rien de s'énerver. Nos femmes, Baruch HaShem, quand elles voient qu'on prend le temps d'être à l'écoute de leurs sentiments et qu'on discute avec elles et qu'on cherche à les écouter, et même qu'elles vont pas bien, on les laisse sortir ce qui va pas, on les laisse crier un petit peu, et après on trouve une solution, pas forcément sur le moment, d'attendre que ça se calme et de trouver une solution, pas de rentrer avec des fleurs et un cadeau, mais trouver une solution. Une femme, des fois, elle va pas attendre la bague, le cadeau, le vêtement ou le week-end à l'hôtel. Elle attend tout simplement que tu trouves un moment de qualité, que tu sois avec elle. Des fois, j'ai des maris, ils veulent bien faire. Ils disent à leur femme, viens, je t'emmène au restaurant. Et au restaurant, ils rencontrent des couples d'amis. Qu'est-ce qu'ils font? Venez vous asseoir avec nous. La femme, elle a envie de mourir. Elle veut passer un moment tête à tête avec son mari. Oui ou non? Ou le mari, il est sur WhatsApp, le téléphone. Tu vas au restaurant, tu vois les gens sur les téléphones. La dernière fois, j'étais avec ma femme, on est parti au restaurant. Baruch HaShem. Et on a vu une chose extraordinaire. Il y avait des couples orthodoxes dans le restaurant, parce que c'est un restaurant pour grands religieux. Vous avez ma tête. Je peux aller n'importe où. Donc, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que je vais au restaurant avec ma femme. Ouais, je vais au restaurant avec ma femme. C'est Marie, Baruch HaShem. D'accord? Et au restaurant, on voit les Haredim, ils n'ont pas les smartphones. Donc les couples Haredim, orthodoxes, le mari et la femme, ils kiffent leur restaurant. Ils sont en train de parler, ils sourient, ils rigolent. Et on voit d'autres couples, ils ont des smartphones, religieux par religieux. Le mari et la femme, chacun sur leur message WhatsApp et compagnie. T'emmènes ta femme au resto, laisse ton téléphone dans la voiture. Je sais pas, c'est une option, hein. Moi, pour répondre à toutes les questions d'Alaha, j'ai pas un téléphone, j'en ai deux, j'en ai trois, je sais plus combien de numéros j'ai. Parce qu'il y a le numéro pour les tribunaux, il y a le numéro que j'ai depuis des années où les gens ils me posent des questions d'Alaha, il y a le numéro que c'est que pour ma femme et mes enfants, parce qu'on m'appelle tellement sur les deux autres que des fois je les mets de côté pour que ma femme puisse m'appeler, d'accord? Et ben quand je rentre chez moi à la maison, tous les téléphones, c'est pas bien ce que je veux dire, parce qu'on va savoir où les trouver, mais ils rentrent pas chez moi à la maison, ils restent dans la voiture. Ils rentrent pas chez moi à la maison les téléphones. Il n'y a pas de téléphone à la maison. Elle est belle la vie ou pas? T'as besoin de m'appeler, il faut avoir le numéro de chez moi. T'as pas le numéro de la maison, t'as un problème. Bouh. Et le numéro de chez moi, je ne distribue pas. Ça simplifie le problème. Ça t'enlève le Yetzerara du téléphone. Parce que c'est un Yetzerara, parce que tu commences à vouloir répondre à une question. Parce que moi, je fais des misvotes, moi. Moi, je réponds à des questions d'Alaha, alors je réponds à celui-là, je réponds à celui-là, je réponds à celui-là. Mais au bout de 3 heures que j'ai répondu à tous les messages, elle est comment ma femme seule dans la cuisine? Non? Vous croyez qu'elle est heureuse? Je dis, oh, mon mari, c'est un tzaddik, il a répondu sur WhatsApp à plein de questions d'Alaha. Vous dites, attends, il rentre à la maison, il n'est pas à côté de moi? Ou il est là, mais il n'est pas là? À votre avis, il réfléchit comment ma femme? Comme n'importe quelle femme. Quand moi je viens, je fais les bons ma'asim, Baruch HaShem, et quand la femme aussi, elle fait les bons ma'asim, qu'on cherche à passer du temps de qualité, parce qu'aujourd'hui, les femmes avec Instagram, les femmes mariées, hein, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Facebook, on dirait qu'on a des gamins, adolescents. Instagram, Facebook, je ne sais pas encore ce qu'il y a là, des trucs avec des fantômes, là, Snapchat. Ouais, je fais de manique, hein, on les connaît les implications. Parce que les problèmes de couple, quand ils arrivent chez moi, je vois aujourd'hui qu'on a affaire à des gens, parfois la quarantaine, et qui sont encore des adolescents avec les applications, sur leur téléphone. J'ai eu un monsieur de 50 ans, il avait un problème avec Candy Crush, dans les toilettes. C'est fantastique quand même, Candy Crush quand même, les mecs. Oui, il m'aurait dit au moins il y a un jeu de voiture, asphalte, un truc kiffant quoi. Non? Je fais pas le mytho au moins. Non? Non, non, Candy Crush. Ce que j'essaye de vous dire c'est quoi? C'est comment vous comportez vis-à-vis de l'autre? Comment vous restez connecté à votre vie, à votre foyer, à vos proches, à votre famille? C'est ça le plus important, ça qui ramène la bracha dans la parnassa et dans tout. La parnassa c'est pas uniquement l'argent. La parnassa c'est même le soir de Shavuot, vous savez qu'on est jugé sur la parnassa? Mais quelle parnassa? Combien de chorma Dieu va nous donner pour arriver à comprendre sa Torah? C'est le soir de Shavuot que ça joue. Tu crois? C'est le soir où il ne faut pas dormir, hein, les enfants. Hein. Moi, c'est un soir, je suis comme ça, au taquet. Oui, c'est le soir où on décide si tu vas être intelligent ou idiot durant l'année. C'est aussi une parnassa, ça. Et tu peux changer ça, ce soir-là. Donc c'est important, Bezrat HaShem. qu'on ait une parnassa et de la bracha dans toutes les dimensions de nos vies, Bezrat Hashem. Beaucoup de shalom bayit, parce que Dieu sait que notre génération en a besoin. Baruch Hashem. La Hatzlacha pour cette Kihila. La Hatzlacha pour le Rav Sadoun dans toutes ses entreprises. La Hatzlacha pour chacun d'entre nous. Et surtout pour moi. De bonnes nouvelles. Bonne Hatzlacha. Hatzlacha Kadosh Baruch Rizakot Israël. Yargdil Torah Ve'adir.